Le bulletin du handicap. Mon nom est Kevin Breton et voici vos manchettes en ce mardi 30 juin. La participation citoyenne est encore freinée lorsqu'on est un jeune en situation de handicap à Montréal. Une nouvelle ligne de la Société de transport de Laval accessible aux personnes à mobilité réduite. Des ateliers de cuisine pour non-voyants. L'accessibilité sur le web public devient affaire d'État en France. Et une conférence sur les sports pour personnes avec une déficience visuelle chez Mountain Equipment Co-op. L'organisme montréalais Execo a rendu public son rapport de recherche intitulé « S'engager pour une voie sans obstacle sur la participation citoyenne des jeunes montréalais et montréalaises avec une déficience motrice, auditive ou visuelle ». Le résultat probant est que 40 % d'entre eux souhaiteraient s'engager davantage si les décideurs et les organismes de la société civile leur faisaient de la place. Execo a entrepris il y a 2 ans une recherche permettant d'identifier les lieux de participation citoyenne des jeunes Montréalais et Montréalaises en situation de handicap, tout en cernant les freins et les moteurs à leur engagement. Malgré que les jeunes aient davantage vécu les avancées favorisant l'inclusion sociale, il est troublant de constater, à la lumière des résultats, que 40 % des jeunes participants à la recherche sont freinés dans leur participation citoyenne pour des raisons reliées au handicap, ce qui en ferait de loin le principal frein à l'engagement de cette population, affirme Benoît Racette, organisateur communautaire et responsable de cette recherche chez Execo. Ces premières données ont ensuite été enrichies et ont guidé la deuxième phase de l'étude. On peut les consulter à partir de la page 37 du rapport de recherche. À l'occasion d'un forum ouvert en avril 2014, les jeunes ont permis de mieux faire comprendre le sens qu'elles et ils donnaient à l'engagement. C'est aussi lors de ce forum qu'a été développé les questions de recherche qui ont guidé les entretiens avec 10 jeunes qui présentaient différents profils. Cet exercice a culminé vers un sommet en décembre dernier où Execo a présenté les résultats de la recherche. Maintenant, le vrai travail commence. Notre organisme devra non seulement ajuster ses propres pratiques afin de mieux répondre à la réalité des jeunes, mais devra également sensibiliser ses partenaires associatifs et institutionnels à le suivre dans cette voie, affirme Pierre-Yves Lévesque, directeur général de l'organisme. La réussite de cette recherche n'aurait été possible sans la participation des différents partenaires communautaires et institutionnels. Dès le départ, ces organisations ont diffusé le sondage dans leur milieu et plusieurs d'entre elles ont même participé au sommet de décembre 2014 « S'engager pour une voie sans obstacle ». Le rapport peut être disponible sur le site internet execo.net. Depuis le 20 juin, les autobus de la ligne 20 de la Société de transport de Laval sont accessibles en tout temps aux clients qui utilisent une aide à la mobilité, que ce soit un fauteuil roulant, manuel ou motorisé, un triporteur ou un quadriporteur. La ligne 20, qui relie le quartier Chomedey à la station de métro Quartier, s'ajoute aux lignes 60 et 39, déjà respectivement accessibles depuis novembre 2011 et juin 2013. Notre objectif est d'étendre ce service à l'ensemble des lignes du réseau au fur et à mesure qu'augmentera le nombre d'autobus équipés d'une rampe à l'avant, a souligné le président du conseil d'administration de la STL, David Decotis, par voie de communiqué. Ce service s'adressera aux clients aptes à monter dans un autobus et à en descendre de façon autonome ou avec l'assistance de leur accompagnateur. Comme les chauffeurs ne sont pas autorisés à quitter leur poste, le service doit être vu comme un complément au transport adapté, a poursuivi M. Decotis. Les personnes ayant besoin d'assistance doivent en tenir compte et opter pour le transport qui répond le mieux à leurs besoins. La STL rappelle que certains arrêts ne sont pas accessibles en raison de la configuration des lieux. Les clients sont invités à vérifier sur le site de la STL, dans la section « Services et tarifs, arrêts accessibles du réseau régulier », le statut des arrêts qu'ils comptent utiliser avant leur déplacement. C'était un article du Courrier de Laval. Un reportage de Kate Tremblay pour TVA. Les personnes qui souffrent d'une déficience visuelle doivent se battre quotidiennement pour conserver leur autonomie. Le Centre de réadaptation en déficience physique de Saguenay leur offre des ateliers de cuisine pour les aider à relever ce défi et pour les sortir de l'isolement. J'ai vraiment pris le taureau par les cornes. Je n'ai pas pleuré. J'étais enseignante, puis là, je suis devenue étudiante. J'étudie comment me débrouiller avec ma canne, avec mon chien, à me faire à manger. Toutes les choses qu'il faut réapprendre, lance Carmen Bernier, qui a perdu la vue il y a 6 ans, après avoir contracté une méningite bactérienne. Elle participe aujourd'hui à un atelier de cuisine offert par le Centre de réadaptation en déficience physique de Jonquière. La cuisine, c'est une de ses habitudes de vie qui cesse au début par des heures de sécurité. Souvent, les gens ont peur de se blesser. L'entourage aussi a peur qu'il se blesse, explique la travailleuse sociale Sabrina Lessard. Le Centre de formation professionnelle de Jonquière a accepté d'ouvrir ses cuisines aux participants et de leur offrir les services d'un professionnel. Pour le directeur adjoint du CFP de Jonquière, Carl Dumas, il allait de soi d'ouvrir les portes du centre afin de faire profiter à tous des talents des professionnels et d'enseignement. C'est une des belles expériences que j'ai vécues depuis mes débuts ici. Je trouve que c'est très valorisant. Il n'y a pas de mauvaise cause, il y a seulement de bonnes causes, a-t-il commenté. On les implique du début à la fin du processus. On fait l'épicerie avec eux, on fait les menus, les horaires. C'est eux qui apportent les recettes, c'est eux qui nous guident dans les recettes, précise Sabrina Lessard. En plus de développer leur autonomie, les ateliers de cuisine permettent aussi aux participants d'échanger entre eux et de briser l'isolement. C'est plaisant faire à manger. Quand on veut manger, il faut que ça se fasse par quelqu'un. On discute avec les gens, tout seul à la maison, avec un chien, c'est plus long. Tu parles, mais tu n'as jamais de réponse. Dis à la blague un des étudiants du cours, Yvan Dufour. En France maintenant, un article tiré de localtis.info, l'accessibilité sur le web public devient affaire d'État. Le nouveau référentiel général d'accessibilité pour les administrations a été officiellement inauguré ce jeudi 25 juin par les secrétaires d'État Clotilde Walter et Ségolène Nouville. La version 3.0 de ce référentiel avait été publiée au Journal officiel le 2 mai dernier, venant réactualiser la version alors en vigueur qui datait de 2009. Fixé comme une priorité par le président de la République, François Hollande, lors de la Conférence nationale du handicap, ce nouveau référentiel répond à la loi handicap du 11 février 2005 qui stipule l'obligation d'accessibilité numérique pour tout type d'invalidité. Le regroupement définit les critères que les sites Internet de l'administration devront respecter afin de permettre à tous les citoyens d'accéder aux services et aux démarches en ligne, qui devrait représenter environ 50% d'usage des services publics en ligne à l'horizon 2016, alors que seuls 4% des sites de l'administration affichent une déclaration de conformité, comme l'a rappelé Clotilde Walter lors de son discours. La démarche s'inscrit dans une évolution naturelle vers le numérique qui impose aussi que les sites web se mettent à niveau. Il y avait urgence car le référentiel en vigueur n'avait pas été réactualisé depuis 2009. C'était hier, mais c'était il y a 6 ans. À l'échelle du numérique, c'est une éternité, a commenté Ségolène Neuville. Le secrétaire d'État considère l'accessibilité comme une idée simple à promouvoir largement, car quand tous les citoyens peuvent connaître et faire valoir leurs droits, c'est le vivre ensemble qui progresse et c'est le pacte républicain qui est respecté, a-t-elle conclu. Et en terminant au sport, l'Association sportive des aveugles du Québec présentera une conférence au Mountain Equipment Co-op du marché central à Montréal. L'association invite les citoyens à venir se familiariser avec les sports pour personnes ayant une déficience visuelle lors de la conférence du 9 juillet qui sera donnée par Nathalie Chartrand, la directrice de l'association. Lors de cette conférence, les personnes sur place pourront en apprendre plus sur les différents sports qui peuvent être pratiqués par des personnes ayant un handicap visuel, tennis, soccer, course à pied, goalball et bien plus. Ce sera aussi là l'occasion d'en connaître plus sur la course Lumière, un événement organisé par le MEC et l'association qui se tiendra le 5 septembre prochain. Donc voilà, c'était Kevin Breton et je vous dis maintenant à jeudi pour d'autres nouvelles du bulletin du handicap.